à tous et bonjour à toutes. Belle fête à tous de Sukkot, puisqu'on est en plein dedans. Et on va parler des prochaines fêtes, fin des fêtes. Ce sera le lundi 27 septembre entre 18h02 et 19h03 pour l'allumage des bougies de la fête. Et la fin des fêtes et de la fête, ce sera mercredi soir à partir de 19h55. On va parler donc de Shmini Atzeret et de Simchat Torah. Pour en parler avec nous, Monsieur le Rabbin Simon Sabama, vous êtes le responsable du mouvement Lubavitch de Strasbourg. Oui. Rav Shimon Sabama, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce qui était intéressant avant de parler de la fête de Shmini Atzeret, c'est qu'avant Shmini Atzeret, il y a un petit cérémonial, il y a des minagim un peu dans toutes les communautés. Qu'est-ce qui se passe en fait avant ?
Ben avant, d'abord, il y a donc le dimanche soir, dimanche 26, il y a le Hoshana Rabba, ça veut dire c'est la veillée dans laquelle on veille. Et il y a, certains ont un rite particulier où on peut lire Tehilim, on lit le Chumash, etc. Il y a des Shiurim, voilà.
C'est une étude en fait pour implorer Dieu de sa miséricorde.
Voilà, exactement. On se réunit, on se prépare. Il y a écrit dans la Torah que chaque fois qu'il y a un sujet important, il faut une préparation. C'est une façon aussi de marquer notre ardoute, notre union entre nous et d'étudier ensemble. Certains ont des rythmes particuliers donc, qui ont un oussard particulier.
Et donc, lundi matin, la prière sera un peu plus longue.
Oui, bien sûr. Lundi matin, c'est au Shana Rabba, c'est là où on fait les akafot autour de la Bima. Pour se préparer Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et la prière est beaucoup plus longue, bien sûr.
Voilà, c'est pour les gens qui voulaient travailler. Donc, voilà. Je prévois un peu d'être en retard le matin. On va parler de Shmini Atzeret. Qu'est-ce que c'est, Shmini Atzeret ?
Alors, écoutez, Shmini Atzeret, c'est le 8e jour de la fête. C'est écrit dans la Torah que Dieu a fixé la fête de Sukkot 7 jours. Et puis, comme explique l'Archi, qu'en réalité, les 7 jours, c'est trop court, parce qu'il y a écrit dans la Torah, « Kasher alai pridatrem », Dieu il dit aux Juifs, vraiment, votre séparation m'attriste. Et donc, on a ajouté un 8e jour, Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête, de manière à ce qu'on reste ensemble. C'est la raison pour laquelle, pendant les fêtes de Sukkot, on offrait des sacrifices qui représentaient ceux du peuple juif et ceux de toutes les nations, des 70 nations. Tandis que Shmini Atzeret, c'était le 8e jour, c'est écrit « Par Echad, Aïl Echad ». Il y a un seul animal qu'on présentait au temple, en sacrifice, qui représente en réalité l'ardoute, l'union du peuple juif avec Dieu. C'est comme, on donne l'exemple dans les Midrashim, c'est comme un roi qui organise une très grande fête, il invite tous ses amis, mais il a un ami particulier, et lorsque tout le monde s'en va, eh bien, il dit à cet ami « Écoute, fais-moi plaisir, reste un peu encore avec moi, et on va rester ensemble, et on va faire une petite fête ensemble. » Et le roi et son invité intime sont unis ensemble dans une chambre et ils sont ensemble, ils font la simra ensemble. Et ça, justement, c'est le 8e jour.
Pourquoi, au départ, le peuple juif n'était pas en union avant Sukkot ?
Il y a en union, parce qu'effectivement, vous avez raison. En réalité, la Sukka, ça représente le sujet de l'union. Parce que la Torah, elle dit que tout le peuple juif, il est capable, il est apte, il mérite d'être tout ensemble, tous les millions de juifs, si on peut dire, sont aptes à être dans une seule soukha. Donc le sujet de soukha représente la hardout. Mais en réalité, toute la fête de Sukkot représente cette union entre le peuple juif. Toute la fête depuis le début, puisque la preuve en est, c'est que quand on prend le loulav représente les 4 espèces. Vous savez, chaque espèce représente une sorte de juif. L'érudit, celui qui n'est pas érudit mais qui fait les mitzvot, etc. On connaît cette explication.
Chaque caractère. Ouais.
Chaque caractère, voilà, chaque façon. Et donc, toute la fête de Sukkot, et avec le bouquet du loulav, les 4 espèces, encore plus, dans la soukha, ça représente l'union. Donc toute la fête de Sukkot avec Shmini Atzeret, c'est un sujet d'union.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que au niveau de la fête de Shmini Atzeret, vous avez une explication évidemment chassidique sur cette fête.
Oui, en réalité, dans la chassidoute, bien sûr, c'est basé sur des sirots du Rabbi de Lubavitch ou des rabbiim, comme le livre extraordinaire de l'Admor HaZaken de l'Ikutei Torah. On explique dans la chassidoute les sujets d'une manière beaucoup plus pnimite, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus profonde. On explique le sujet de la manière suivante. C'est que Shmini, ça veut dire 8. 8, c'est quelque chose qui...
Le chiffre 8.
Oui, excusez-moi, 8. Vous avez raison. Vous avez bien fait de me reprendre. Donc, Shmini, c'est 8. 8, ça veut dire c'est au-dessus du monde. Parce que le monde est fait sous la façon, le chiffre 7. Dimanche, lundi, à Shabbat, ça fait 7. Mmh. Quand on parle de 8, ça veut dire qu'on dépasse le niveau du monde. C'est la raison pour laquelle que l'attachement avec Dieu se fait à travers la Mila, la circoncision. La circoncision se fait le 8e jour pour montrer que cet attachement, c'est un attachement avec Dieu qui est tout à fait inconditionnel, quelles que soient les situations et les épreuves, les souffrances et les difficultés que peut rencontrer le peuple juif. Mais en réalité, nous sommes toujours fidèles et attachés à Dieu parce que l'Amila, c'est le chiffre 8, c'est au-dessus de la compréhension. C'est au-dessus du monde. Et Shmini, c'est le chiffre 8, Shmini. Ça veut dire qu'il y a un attachement, comme on a dit à l'instant, c'est l'attachement de Dieu avec le peuple juif qui est uni. Mmh. Et donc, ça représente le chiffre 8. Le mot « atzeret » veut dire « s'arrêter ». Ça veut dire que ce niveau de 8, ça veut dire très très élevé, « ashmini atzeret », eh bien, on est en train de l'arrêter, de le compiler, de le comprendre en quelque chose, de le recevoir, d'avoir une sorte de aura, d'un reflet de ce niveau-là. Vous voyez ? C'est ça l'explication.
Alors, l'explication, elle est intéressante, mais on sait que le chiffre 7 est un chiffre important dans la religion. Le chiffre 8, c'est en fait l'infini, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui. En réalité, le chiffre 8 représente l'infini. Pourquoi est-ce qu'il représente l'infini ? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer du moins. Ouais. C'est qu'en réalité, nous voyons qu'à Simchat Torah, Shmini Atzeret, nous voyons qu'on fait ce que nous appelons les hakafot. Nous faisons les hakafot. C'est quoi les hakafot ? Les hakafot, c'est le fait de tourner autour de la bima, autour de là où on lit la Torah, le meuble, voilà. On tourne et on fait des cercles. Et ce sujet-là des hakafot est particulier à Shmini Atzeret et Simchat Torah, puisqu'à Simchat Torah, les personnes prennent un Sefer Torah dans la main et tournent autour de la bima. Ouais. Or, ils décrivent un cercle. Or, il faut savoir que le cercle est une figure géométrique tout à fait particulière. Parce que lorsqu'on décrit un cercle, dans ce cercle-là, il n'y a ni fin ni début. C'est-à-dire qu'on peut tourner constamment. D'ailleurs, nous voyons, par exemple, que le rapport du périmètre divisé par son diamètre donne le fameux chiffre pi qui est 3,14. Mais en réalité, le chiffre pi 3,14, c'est un chiffre infini. C'est 3,14, 3,14, etc., avec une suite de chiffres qui ne se suivent... La série ne revient pas régulièrement. Ce sont des chiffres qui se suivent avec une sorte d'incohérence. Voilà, donc c'est l'infini. Donc finalement, ce sujet-là de tourner... c'est un sujet qui représente l'infini, ça veut dire que nous atteignons, si vous voulez, à un niveau plus élevé au-delà du temps.
Mais pourquoi ce code particulièrement ? Pourquoi pas dans une autre fête, par exemple, Rosh Hashanah ou Pessah ? Pourquoi spécialement Sukkot ?
Spécialement Sukkot, pourquoi ? Parce qu'à Sukkot, nous faisons la soukha, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire la soukha ? Représente la soukha. Il faut savoir la chose suivante, que la soukha, ce n'est pas une simple petite cabane. Ce n'est pas que, voilà, maintenant, les Juifs arrivés en début de l'hiver, comme ça, ils font une cabane. Ce n'est pas du tout ça. La soukha représente, elle est liée à des lois, à des dinim, à des lois très strictes pour qu'elle soit cachère. La soukha est une mitzvah. C'est pas simplement construire une cabane. Je pourrais construire une cabane n'importe comment. Non, la soukha, c'est une mitzvah. Le mot mitzvah vient de l'araméen tsafta, ça veut dire attachement, chibour, attachement. Toute mitzvah, lorsqu'on l'a fait, on est attaché à Dieu. Donc la soukha, c'est une mitzvah.
Une mitzvah. D'ailleurs, on doit aussi attacher les quatre espèces.
Oui, bien sûr, on doit aussi attacher, bien sûr. Mais la mitzvah de soukha, l'essentiel dans la soukha, c'est le srar. Le srar, ça veut dire c'est le toit. Ce toit-là, pour qu'il soit kasher, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de lumière dans la soukha. Ça veut dire qu'il y a un sujet d'obscurité. Alors, je réponds à votre question. Le sujet, c'est que Dieu, on ne le comprend pas, il est au-dessus. Le nom de Dieu qui le caractérise, c'est le yud, avec ensuite le he, ensuite le vav, et ensuite le he, c'est le tétagramme. Ce tétagramme, en réalité, on explique dans la Torah que c'est l'union de aya, ove, veillé. Il était... Il est et il sera. Donc, quand on dit « il était, il est et il sera », ça fait en hébreu « aya, ove, veillé », ça donne le nom de Dieu que nous connaissons. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu, il lit ensemble le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de ce niveau pour pouvoir les lier. Nous qui sommes des êtres humains, nous sommes conditionnés, nous sommes en dessous le temps, c'est-à-dire nous sommes conditionnés par le temps, limités par le temps, nous ne pouvons pas revenir ni en arrière, ni on peut se projeter mentalement dans le futur, mais on ne peut pas vivre le futur. Donc, le sujet que l'ombre de la Souka représente ce niveau obscur pour nous, c'est un niveau obscur pour nous, pas pour Dieu, bien sûr, pour nous. Mmh. C'est une sorte de voilement de Dieu. Et donc, ce sujet-là, vous m'avez posé la question, pourquoi spécialement à Soukhot ? Parce que justement, à travers les Hakafot, à travers le fait qu'on tourne comme un cercle, il n'y a ni début ni fin, ça veut dire qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Il y a une sorte d'union, si on peut dire, entre le passé, le présent et le futur. Et donc là, nous sommes au niveau du nom de Dieu, Yud, He, Vav, et après la lettre, dernière lettre, He. Ça veut dire que nous atteignons ce niveau. C'est la raison pour laquelle c'est lié à Soukhot, à cause justement du Srar, du toit, qui représente un niveau qui nous est obscur pour nous, mais qui se dévoile justement au moment de Soukhot. De là, on comprend que la fête de Soukhot, c'est un moment très, très, très important.
On va passer à la deuxième fête. Alors, ça aussi, c'est un peu bizarre parce que finalement, il n'y a pas d'arrêt entre la fin de Shmini Atzeret et de Simchat Torah. Ça se suit. Hein, c'est, oui. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Simchat Torah, la fête de la Torah, pour vous, ça représente une grande fête chez les Lubavitch ou il y a une autre explication?
Ah oui, il y a une autre explication concernant la Kéambrin qui se suit avec ce qu'on a dit précédemment. Hein? C'est qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle pendant Soukhot, il y a ce qu'on appelle Nisuch Hamayim, ça veut dire que sur l'autel où on faisait les sacrifices, il y avait une délibation de vin. On versait du vin sur les sacrifices pendant toute l'année. Mmh. À Soukhot aussi, on versait le vin. Mais on avait le minag, l'habitude de faire... c'est pas le minag, c'est une mitzvah. D'amener de l'eau en plus, ça s'appelait Nisuch HaMayim, ça veut dire on versait de l'eau sur... Voilà, il y avait le vin, il y avait aussi l'on amenait de l'eau. Mmh. Et on expliquait que... C'est écrit dans la Torah que... Tout celui qui n'a pas vu la grande joie, la simcha extraordinaire qu'il y avait au moment de Nisuch HaMayim, au moment de Soukhot, des Hakafot, de Simcha Torah, il n'a jamais vu une seule joie de la joie de sa vie. Pourquoi ? Quelle est cette... c'est une question. Oui. Pourquoi, en quoi le fait de mettre de l'eau sur les sacrifices, en quoi ça procure une joie extraordinaire ? Ça veut dire, c'est comme si on dirait maintenant, vous êtes dans votre cuisine, votre salle à manger, vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau qui coule, et tout à coup...
Vous faites la fête.
Vous faites la fête. Vous mettez à danser, c'est extraordinaire, l'eau coule, mais c'est... Bon, peut-être vous pouvez être content parce que nos ancêtres devaient chercher l'eau dans des puits très loin et maintenant vous avez l'eau du robinet à disposition. Mais bon, enfin, c'est un peu simpliste, si je peux dire. Donc, la question est en quoi le fait de verser de l'eau sur les sacrifices, en quoi c'est une chose tellement magnifique et extraordinaire. Alors, on explique justement dans la Chassidout qu'il y a une différence entre le vin et une différence entre l'eau. Le vin, ça représente, le vin a un goût, et le vin représente la compréhension. Par exemple, Rashi, par exemple, qu'explique le Chumash, on appelle Rashi Yena Shel Torah, le vin de la Torah. Parce qu'en comprenant l'explication de Rashi sur le Chumash, automatiquement, on est comblé par cette explication claire et la compréhension de la Torah. Mmh. Et donc, du coup, c'est comme si qu'on a bu du vin, on comprend mieux, on est enivré, on est saoul, on devient saoul de cette compréhension. Donc c'est le vin. Le vin représente d'ailleurs le vin, il a un ta'am, ça veut dire il a un goût, et le mot ta'am en hébreu veut dire aussi la compréhension. Donc le vin représente ce qu'on appelle la bina, c'est-à-dire l'éclaircissement, la compréhension. Mm-hmm. Tandis que l'eau c'est quelque chose qui n'a ni goût ni couleur. Vous savez, l'eau était incolore, inodore, sans saveur, c'est de l'eau, vous voyez. Ouais. Donc finalement, l'eau représente un niveau qu'on dépasse la compréhension, on arrive au niveau de Dieu, si on peut dire, du tétagramme, c'est-à-dire Yud, He, puis Vav, et puis le He, les quatre lettres du nom de Dieu. Ça veut dire que c'est le passé, le présent, le futur qui sont liés ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive à un sujet qu'on dépasse totalement la compréhension. Et donc le fait d'atteindre un niveau que ce qui était obscur pour nous, qui est matérialisé par le toit de la Souka, qui doit être plus d'ombre que de lumière, ça veut dire c'est ombragé, c'est obscur. Ce niveau-là qui était obscur pour nous, eh bien nous arrivons à être au-dessus.
Mais ce niveau-là, on ne l'aura jamais. Ce niveau d'au-dessus du 8, au-dessus de l'ombre, c'est vraiment un niveau qu'avait donné Israël devant la Torah, non ? C'est un
niveau... Vous avez raison, vous avez raison. Je vais essayer de vous répondre. En réalité, il faut savoir une chose. C'est que dans la Torah, il y a un sujet important, très important, qui s'appelle le Rochem. C'est quoi le Rochem ? C'est la trace. Qu'est-ce que ça veut dire la trace ? Ça veut dire, par exemple, vous allez me dire la même question. Les Juifs sont partis, ont fait Yom Kippour, ils ont prié, ils ont fait tchouva, ils se sont repentis, et puis malheureusement, on voit que pendant l'année, ils recommencent, on refait des fautes, etc. Et après le Yom Kippour suivant, de nouveau. En réalité, le fait qu'on ait vécu Yom Kippour et qu'on se soit rapproché de Dieu et qu'on ait eu l'intention de faire tchouva, même si après on refait des fautes, bien entendu, ceci n'est pas une excuse pour refaire des fautes, ce n'est pas ce que je veux dire, bien entendu, hein. Il n'y a aucune excuse. Mais ce que je veux dire, le fait que nous ayons vécu Yom Kippour, on a eu, on a saisi en quelque sorte le fait de se repentir. Et même si après on n'est pas au niveau, mais il y a une trace qui nous reste de se repentir et qui fait que finalement on a la possibilité potentiellement de s'élever de niveau parce qu'il nous reste ce qu'on appelle une aura, ça veut dire un reflet de cette chose-là. Aussi de la même façon ici, lorsqu'on vit la période de Soukhot avec la Simra, etc., on sait très bien que le lendemain on va reprendre le travail, après on va reprendre 15 jours après, il est possible qu'on ait complètement oublié Simra Torah et la fête, etc. Mais en réalité on a, comment dire, absorbé, c'est comme, je sais pas si, comme vous dire, c'est comme si on a pris un médicament, vous voyez. On a fait un vaccin, tiens, c'est le sujet du jour. Ouais. On a fait un vaccin, on le fait une fois, et puis après, il y a
le rappel.
Non, il y a le, comment dire, les effets qui se font, disons, qui se manifestent, qui se font ressentir des mois plus tard. Ou des, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un reflet. Donc, c'est ce reflet, ce rochem, ce reflet qui nous fait vivre, finalement, et qui nous permet de rebondir chaque année, vous voyez ?
Alors, pour la fête de Simchat Torah et la fête de Sukkot et la fête de Shmini Atzeret, il y a un mot qui revient souvent, et ça va vous faire plaisir, c'est le mot de joie. Je sais que les Lubavitch disent que toute l'année, il faut être joyeux. Alors, à Simchat Torah, il faut être encore plus joyeux, c'est possible ?
Oui, bien sûr. Bon, parce que la joie de l'année, c'est une joie, on peut dire, du niveau de 7. Ça veut dire 7, c'est, voilà, exactement, 7, c'est le monde. Mais à Simchat Torah, on crève le plafond.
Ouais.
On atteint un niveau plus.
Et il va être très joyeux. C'est vraiment la fête Hagim avec la joie, ça sonne de Simcha.
Voilà, ça doit être un moment particulièrement joyeux et. Comment dire, qu'on doit ressentir profondément.
Voilà. On arrive à la fin de Simchat Torah, je le rappelle, mercredi soir, la fin sera 19h55. Qu'est-ce qu'on doit retenir au bout de cette série de fêtes ? Il y a un sentiment qu'on doit avoir, à votre avis ?
C'est-à-dire, dans toutes les fêtes, en réalité, toutes les fêtes doivent nous marquer, comme on a parlé à l'instant du rochem, de la trace qui nous reste. Ça veut dire que le but des fêtes, d'ailleurs, on voit souvent que les fêtes, sur le temps, occupent une semaine. Soukhot, par exemple, Pessah, etc. Vous voyez, ça prend une semaine. Tout simplement parce que ça marque chaque jour de la semaine. Ça marque du dimanche au Shabbat, ça fait 7 jours. Ça marque les 7 jours. Ça veut dire que les fêtes sont un moment dans lequel on vit intensément on ne commémore pas. C'est pas une commémoration, c'est pas un rappel, c'est pas un souvenir. C'est on vit le sujet, on le revit. Comme par exemple à Pessah, ce n'est pas une commémoration de la sortie d'Égypte que nous. Mais à Pessah, nous vivons vraiment notre sortie actuelle d'Égypte. Ça veut dire notre sortie de notre Égypte personnelle. Parce que le mot Pessah, Mitzrayim, veut dire limite. Et à Pessah, on sort de nos limites.
Mais
c'est un exemple.
On dit aussi
alors voilà.
C'est pour souvenir des enfants d'Israël qui vivent dans les cabanes.
Oui, mais voilà, justement, ça ne doit pas être un souvenir. C'est sûr que extérieurement c'est comme un souvenir, mais en réalité ça doit être quelque chose que nous revivons. Si vous voulez, il y a la même intensité qui s'est dévoilée au moment de Soukhot, vous voyez. Eh bien, cette même intensité, elle revient. C'est comme par exemple à Rosh Hashanah, on dit que Dieu recrée le monde, c'est-à-dire l'intensité divine qui a créé le monde le premier jour, qui a créé l'homme en tout cas, puisque Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme et pas de la création du monde. Eh bien, lorsque Dieu a créé l'homme en lui donnant toutes ses potentialités, eh bien, Rosh Hashanah, chacun d'entre nous, chaque personne individuellement, reçoit de nouveau cette force potentielle pour pouvoir lui être comme Adam Harishon, le premier homme, et redémarrer à zéro, vous voyez. Ce n'est pas un souvenir. Aussi à Soukhot, ce n'est pas un souvenir. Bien sûr, extérieurement, c'est dans le texte, c'est Zecher, c'est un souvenir. Mm-hmm. Mais en réalité, c'est pas seulement un Zecher. Il y a écrit Besukot Tejvu Shivat Yamim. Dans les Sukkot, vous, dans le temps futur, vous devez vivre Tejvu. Vous devez y écrire. Vous devez vivre comme si vous étiez chez vous à la maison. Mm-hmm. C'est écrit dans le texte, comme si vous étiez chez vous à la maison. Ça veut dire que on est en train de revivre ça. Ce n'est pas un souvenir, parce que si c'était un souvenir, ça veut dire que la Torah finalement c'est un livre d'histoire. Or, la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est la shon ora qui veut dire enseignement. C'est un enseignement quotidien. C'est écrit que veiyu be'enecha kechadashim, que les paroles de la Torah doivent être pour nous tous les jours quelque chose de nouveau. On les vit ayom, comme c'est écrit dans Shema Israël, qu'on doit faire ayom. Vous devez faire les choses aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout un zecher. C'est le chumash n'est pas un livre d'histoire. Le chumash est quelque chose avec lequel on vit quotidiennement. Donc, Sukkot, on vit. On vit réellement. Nous sommes en train de vivre les Sukkot que les Béni Israël ont, les nuées de gloire qui ont protégé les Béni Israël et la protection divine. Nous sommes en train de la revivre. Et en plus, nous puisons de Sukkot, nous puisons cette force, justement, pour pouvoir ressentir cette protection divine et si vous voulez, se relancer pour après Sukkot, pour se ressourcer.
Mmh. Alors, Simon Sama, je le disais en début d'émission, vous êtes le responsable du mouvement Lubavitch à Strasbourg. Parlons un peu du mouvement Lubavitch. Comment se passaient les fêtes ?
Oui, grâce à Dieu, Baruch HaShem, nous avons accueilli beaucoup de monde. Voilà, et grâce à Dieu, là, nous allons donc fêter Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et c'est pour moi l'occasion de dire à la communauté de Strasbourg avec laquelle je suis là depuis presque maintenant, presque 50 ans.
Ah, vous êtes un meuble alors.
Voilà, je fais partie des meubles. Et je peux dire que la communauté de Strasbourg, pour moi, c'est ma famille finalement. Hein, c'est ma famille. Et donc, j'invite toutes les communautés à fêter dans leur synagogue respective avec beaucoup de joie. Parce que nous faisons deux fois les Hakafot. Ah. Nous suivons le minhag du Harizal. Nous faisons les Hakafot une fois lundi soir et une fois mardi soir. On fait Shmini Atzeret et Simchat Torah.
D'accord, les deux.
Pourquoi ? Parce que le premier soir, c'est le soir nous sommes en coordination avec Eretz Israël, puisqu'en Eretz Israël, ils ne font qu'un soir.
Oui.
Et le minhag du Harizal, c'est de faire Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, de faire deux fois, le lundi soir et le mardi soir. D'accord. Donc nous faisons deux fois les Hakafot. Alors donc, ceux qui veulent se joindre à nous, avec plaisir, ils connaissent notre adresse.
Il y a deux événements où tout le monde se rue vers le mouvement de Lubavitch, c'est le soir de Simchat Torah et le soir de Pourim. C'est la fête alors, Obet Lubavitch?
Oui, c'est la fête et on essaye en même temps de communiquer à nos co-religionnaires, à nos amis de Strasbourg, la flamme du judaïsme et de leur communiquer cette flamme et cet enthousiasme afin de pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot pendant tout au long de l'année. Et bien entendu, je les encourage aussi à étudier un peu la chassidoute à travers les sirchot du Rabbi de Lubavitch qui sont extraordinaires, qui expliquent le chumash d'une manière tout à fait extraordinaire et tout à fait innovante.
Je crois qu'il y a des sirchot tout au long de l'année, on peut se rapprocher.
Oui,
de
oui
vous.
Bien sûr.
Comment on fait pour vous contacter pour vous appelez la radio et on
transmettra. Oui, il n'y a pas de problème. Je téléphone, il n'y a pas de problème. Nous sommes au 59 au Bourg de Pierre. Et
voilà. Alors, voilà. Il y a juste une question que je voulais poser et c'est une réaction que j'ai eue tout au long des fêtes de Orshana. Lubavitch ont sonné dans toute la ville, le chauffard pour les gens qui ne pouvaient pas se déplacer.
Oui.
Et je voulais dire ça, que c'était quelque chose de très bien. Et je voulais vous féliciter pour cette action d'aller sonner le chauffard pour les gens qui ne pouvaient pas se déplacer, qui ont le droit d'entendre le chauffard le jour d'Orshana. Ça, c'était les Lubavitch, et quand il y a des choses de bien, il faut le dire. Donc, je l'ai dit, notre invité était le rabbin Simon Samama. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, responsable du mouvement Lubavitch à Strasbourg. Et je vous rappelle donc le début de la fête. Et donc, Shmini Atzeret, le 27, c'était entre 18h02 et 19h03 pour l'allumage des bougies. Et la fin de la fête, ce sera mercredi à partir de 19h55. Notons que ces horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Merci à vous. Chag Sameach.
Chag Sameach. Et je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. Chag Sameach.
Merci. Chag Sameach.